Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de ce programme sur la radio mondiale VOA Afrique. Élisée Mbati en direct avec vous. Ce soir, nous évoquerons le sac des Sud-Africaines des Mamelodi Sundowns à la première ligue des champions féminines de football. Et puis, retour sur les éliminatoires du mondial 2022 entre espoirs, confirmation et polémique avec Lawal Din Kosuro qui est dans ce studio avec moi. Bonsoir Lawal.
Élisée, bonsoir.
De Columbus dans l'Ohio, en attendant qu'il ne retrouve Dakar au Sénégal. Amédine Sy, bonsoir Amédine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Sur le continent, nous avons Amine Birouk depuis Casablanca au Maroc. Amine, bonsoir.
Élisée, bonsoir à tous.
Valdo Simon Yamayama nous fait le plaisir d'être avec nous depuis Kinshasa en RDC. Valdo, bonsoir.
Bonsoir Élisée et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Et puis de Cotonou au Bénin, nous avons Albert Ogureji du service des sports de Radio Bénin. Bonsoir Albert.
Bonsoir Élisée et bonsoir à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de VOA Afrique.
Sporama, c'est parti. Les Mamelodi Sundowns remportent la première édition de la Ligue des champions féminines de football. Victoire en finale face aux Ghanéennes d'Asakas Lady 2-0. Lawal, un sacre dans un tournoi inédit au Caire en Égypte, là où s'est déroulée toute la phase finale de cette compétition qui en était à sa toute première édition.
Oui, Élisée, c'était donc un exploit à réaliser par le comité d'organisation. Ça l'a été, c'était un tournoi assez bien organisé et ça a fait plaisir donc à toute la planète foot au niveau donc de la discipline au féminin. Et aujourd'hui, si les Sud-Africaines ont réussi à imposer leur suprématie, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se faisait.
Ils ont d'ailleurs un championnat
assez professionnel. Les Ghanéennes n'ont pas démérité non plus. Donc, on espère que c'est juste le début d'une nouvelle éclosion du football ball féminin en Afrique, parce que véritablement, on ne croyait pas l'avoir si tôt. On l'a eu, c'était une très belle compétition et bravo donc aux Sud-Africaines avec en prime cet honneur qu'elles font au président de la CAF, parce que fondamentalement
c'est le club du président Patrice
Motsepe. Voilà, donc c'est une compétition gagnée de haute lutte et puis bravo à elle. Simplement Élisée.
Amédine Sy, déception pour le club de Sekondi Takoradi qui rêvait gros après avoir dominé la qualification de la zone UFOA.
Tout à fait Élisée, il faut dire que cette première édition a été une réussite, hein, car pour un coup d'essai, la CAF a réussi un coup de maître. Mais Élisée, il faut dire que la déception est très grande, hein, du côté du club ghanéen qui non seulement domine le football féminin de son pays, mais aussi au niveau de l'UFOA. En tout cas, ça a été le cas au niveau de la zone B de l'UFOA, au niveau des éliminatoires. Mais les Ghanéennes n'ont pas démérité puisqu'elles sont tombées sur une excellente formation sud-africaine, Élisée.
Chez les hommes à présent, on connaît les derniers qualifiés pour les barrages de la Coupe du Monde 2022 Zone Afrique. Les 4 derniers tickets ont été attribués et un est allé au Cameroun, vainqueur 1-0 de la Côte d'Ivoire. Valdo, attendu, les Camerounais ont réagi en brisant le raid ivoirien grâce à Etoko et Kambi.
À domicile, Élisée, pour cette confrontation entre deux nations qui ont pris goût à participer à une phase finale d'une Coupe du Monde, pour le compte de la zone Afrique, il fallait bien assurer. Et c'est le Cameroun qui n'a pas tergiversé face à la Côte d'Ivoire, qui s'est livré à fond avec cette petite mais précieuse victoire d'un but à zéro qui a permis aux Lions Indomptables de dicter leur loi sur les éléphants qui n'ont pas du tout démérité. Et surtout que le Cameroun, qui abritera la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, avait peut-être plus d'envie et de détermination à se faire une place à ce rendez-vous mondial pour ainsi rester dans la continuité de la CAN, quel qu'en sera le résultat final. Je pense bien que l'absence de la Côte d'Ivoire ne profite pas du tout à l'Afrique. Mais que voulez-vous, le continent n'a que 5 places et à ce jour, ils sont 10 à prétendre à ces précieuses places qui vont certainement revenir aux plus méritants quand on sait que même le Cameroun n'est pas encore assuré d'une place à la Coupe du Monde avant les barrages prévus au mois de mars 2022.
Le Nigeria aussi jouera les barrages en mars prochain après son nul 1-1 face au Cap-Vert. Albert, le suspens est resté entier jusqu'à la fin du match. Les requins bleus n'ont pas facilité la tâche aux Super Eagles.
Oui, et c'est tant mieux pour le suspense. Vous savez, le Cap-Vert fait partie de ces pays-là qui, sur un match, peut faire trembler n'importe quel adversaire. Et les requins bleus l'ont encore prouvé en allant quasiment faire douter le Nigeria jusqu'à la dernière minute. Et c'est tant mieux pour le suspense et tant mieux pour le niveau de ces éliminatoires-là, hormis le Sénégal, le Maroc et le Mali. Les autres pays ont quasiment obtenu leur qualification dans la douleur jusqu'à la dernière journée. C'est quand même la preuve que ce football africain là, est en train de gagner en expérience. C'est la preuve que les niveaux, les écarts qui existaient entre les différents pays sont en train d'être réduits et c'est tant mieux pour le football africain. On a eu de très belles éliminatoires. Le Cap-Vert est une preuve que ces éliminatoires ont été disputés jusqu'à la dernière journée.
Amine Birouk, l'Algérie aussi a tremblé devant le Burkina Faso. Par contre, ça a été plus facile pour la Tunisie, vainqueur 3-1 de la Zambie.
Qualification assez aisée de la Tunisie. On semblait se diriger vers un mano-mano entre Tunisiens et Équato-Guinéens. Il n'en fut rien lors de la dernière journée, puisque les Aigles de Carthage ont gagné avec beaucoup de panache contre la Zambie sur le score de 3-1. Par contre, la Tunisie a aussi profité d'un coup de main volontaire de la Mauritanie qui a réussi à tenir en échec la Guinée équatoriale. Donc c'était quasiment scellé à la mi-temps à Rhodes et quasiment assuré de passer vers les barrages de la Coupe du Monde. En revanche, ça a été beaucoup plus dur pour l'Algérie. L'Algérie qui reste sur une série d'invincibilité impressionnante qui excède les 32 matchs. L'Algérie a eu face à elle un digne rival, à savoir une sélection des étalons du Burkina Faso qui peut se vendre les droits d'avoir laissé filer la victoire lors de la précédente journée contre le Niger à Marrakech. Ça aurait donné une rencontre encore plus âpre puisqu'il aurait fallu que l'Algérie puisse gagner. Là, un match nul suffisait au Fenech et ils ont obtenu ce résultat, peut-être au forceps, surtout que le Burkina Faso a eu les meilleures opportunités que le Burkina Faso.
Rendez-vous maintenant le 18 décembre prochain à Toa pour le tirage au sort des barrages. 10 sélections devraient être concernées, mais voilà, des réclamations ont été déposées à la FIFA par les fédérations béninoises et sud-africaines de football suite au dénouement de leur match et surtout le comportement des officiels. Des pénalties contestées, mais aussi les 4 changements effectués par Hector Cooper, sélectionneur des Léopards lors du match RDC-Bénin. 4 remplaçants sur 4 sessions différentes, soit une de plus que les 3 autorisées par la FIFA. Valdo, on revient à vous. Ce match à polémique n'est pas loin d'avoir livré son verdict.
Pas loin d'avoir livré son verdict, cette opposition RDC-Bénin, match remporté pourtant 2-0 par les Léopards de la RDC, puisqu'après une plainte sur le supposé non-respect des 3 temps de changement, la RDC a été appelée à présenter jusqu'au plus tard 20 novembre ses moyens de défense avant que l'affaire ne soit prise en délibéré le 23 par la commission de discipline de la FIFA. Mais s'il faut prendre en compte le rapport des arbitres, les changements à la mi-temps n'étant pas pris en compte, le dernier temps à la base de cette requête du Bénin a été sollicité pour 2 changements à la 84e minute. Mais c'est au niveau de son exécution que se seraient posés les problèmes, ce qui est du ressort du 4e arbitre et non du staff congolais qui s'était bien exécuté quant à ce côté RDC. Ça ne panique pas, tout est plutôt calme au niveau de la FECOFA, malgré quelques inquiétudes de la population qui reste nostalgique à l'affaire face au Gabon. Bref, attendons les prononcés de la commission des disciplines de la FIFA pour en savoir un peu plus.
au Bénin. Le secrétaire général de la fédération a expliqué pourquoi un recours était formulé. Claude Paki, au micro de notre confrère Félix Omde Péperipé.
Il y a un pénalty imaginaire, un pénalty qui n'existait pas et que l'arbitre va siffler contre le Bénin. Et deuxième fait, c'est les changements. Au cours de 3 fenêtres de remplacement et non 4, comme l'a fait le sélectionneur. Ce qui est proscrit. Donc, il y a matière à ce que le Bénin puisse réclamer justice.
Albert, la FBF est décidée d'aller jusqu'au bout.
Oui, la FBF est en train d'abattre sa dernière carte parce que sur le terrain, c'est pas passé. Donc, ils exploitent à juste titre parce que la loi le leur permet cet angle, ce pan juridique là pour faire comprendre que la RDC n'a pas tout bien fait dans les normes. Après, il y a une jurisprudence qui ne plaide pas pour le Bénin dans le cas d'espèce, mais qui sait, peut-être que les arguments avancés par le Bénin peuvent peser autrement dans la balance pour que demain, mardi, jour du verdict, on puisse avoir un résultat positif pour le Bénin, même si on sait que, au regard de cette campagne éliminatoire, la meilleure équipe dans le groupe, c'était la RDC, et la RDC s'est qualifiée, même si sur ce dernier match, il y aurait peut-être des choses à redire, mais sur le terrain, les Congolais, eux, disons-le comme ça, les joueurs n'ont rien demandé et ils se sont imposés avec la manière aux Béninois, pourquoi pas d'exploiter, d'explorer cette dernière piste-là, quitte à continuer par rester en vie dans ces éliminatoires-là, mais bon, ça reste du football et moi, j'aime toujours quand le football il se joue sur le terrain.
Lawal, quelle suite donner à cette affaire?
Oui, Élisée, on espère que la FIFA dira le droit, le bon droit.
Puisque tout compte fait, il y a eu 4 changements en 4 temps. Ce que la loi ne prévoit pas au niveau de la FIFA.
La loi ne l'a pas prévu. Étant Cooper, il faut le préciser, très expérimenté, mais il s'était mêlé les pinceaux. Il n'avait pas été aidé par le quatrième arbitre. Donc, c'est des comportements de notre âge qu'on voit en Afrique. Malheureusement, mais sur le terrain, en dehors du pénalty contesté, les Béninois l'avaient perdu. Mais dans l'effet de jeu, ils l'ont perdu. Mais dans sur tapis vert, forcément, la FIFA dira son droit. On attend de voir ce qui va se passer de ce côté-là.
Alors, Amine, que peut-on attendre de la FIFA demain?
Je ne m'attends pas personnellement à un changement de décision. Rien n'indique qu'une erreur arbitrale puisse être volontaire de la part de Maguette Ndiaye, l'arbitre sénégalais de cette confrontation. Autant dire qu'aujourd'hui, la réclamation de l'Afrique du Sud risque de ne pas être retenue. Il y a également un vide juridique concernant la réclamation béninoise. Elle est peut-être un peu plus plausible parce qu'il y a tout de même une dichotomie ou une différence entre la réclamation, les faits, et le rapport de l'arbitre de la rencontre qui a parlé de 4 changements sur 3 temps définis ou différents. Ce qui est certain, c'est que, à mon avis, on devrait se diriger vers le maintien de la décision concernant le match entre le Ghana et l'Afrique du Sud, le maintien du résultat, et peut-être une petite surprise, une petite probabilité de voir le match entre la RDC et le Bénin être rejoué.
Et en attendant de connaître demain la décision de la FIFA et des 10 qualifiés pour l'ultime étape de mars prochain, certains acteurs remettent en cause la formule de ces éliminatoires en Afrique. 5 places, un nombre jugé limité selon Patrice Boumel, sélectionneur des éléphants de la Côte d'Ivoire.
Pour éviter des matchs pourris comme ce soir, qu'on les fasse, il n'y a pas de problème. Et c'est un véritable, quand je parle de marathon, on finit rincé. Pour aller à la Coupe du Monde, on est épuisé. Parce que ces éliminatoires nous usent. C'est très dur. 5 pays sur 53, c'est même pas 9%. C'est 9. Ouais, c'est même pas 10%. C'est honteux. Voilà, je voulais faire passer ce message et je vous le dis, si j'étais qualifié ce soir pour les playoffs, j'avais prévu de faire le même message.
On reste avec vous, Amine. Le technicien français est allé fort.
C'est une vérité qui est bonne à clamer puisque l'Afrique n'a que 5 représentants alors qu'elle a 54 pays qui sont engagés. Ça fait quasiment 11% de probabilité de voir un pays disputer la Coupe du Monde. Je garde un doute raisonnable par rapport à cette déclaration. d'autant plus qu'il y a des faits qui sont notoires et qui font que l'Afrique est aujourd'hui un des parents pauvres du football africain, surtout en termes de résultats. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Afrique n'a jamais eu de demi-finaliste en Coupe du Monde. Elle a certes de très grands joueurs dans les championnats européens, mais il y a tout de même une dernière Coupe du Monde où l'Afrique n'a pas réussi à passer le premier tour. Donc aujourd'hui, il y a maintien certainement des 5 pays sur 54. Il y aura une augmentation de près de 50% du nombre de qualifiés en 2026. Ce sera certainement un cadeau, et j'espère que ce ne sera pas un cadeau empoisonné pour le football africain.
Ahmedine, justement, l'Afrique bénéficiera de 9 à 10 places à partir de l'édition de 2026. Il était temps, vu le nombre d'équipes qui disputent les qualifications.
Tout à fait, Élisée. L'Afrique est toujours perdante dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. D'ailleurs, c'est un secret de polichinelle, car les 5 places réservées à l'Afrique sont vraiment peu, puisque la Confédération africaine de football compte 54 membres, c'est-à-dire 54 pays. C'est pourquoi les éliminatoires sont très difficiles. D'ailleurs, pour une équipe africaine puisse décrocher son ticket pour la grande messe du football mondial, c'est vraiment un chemin de croix. Alors que des pays européens se qualifient facilement en affrontant des équipes comme Malte, Luxembourg, etc. Mais comme le dit l'adage, mieux vaut tard que jamais. Mais pour le moment, l'Afrique doit prendre son mal en patience, Élisée.
Lawal, l'attribution pose problème.
Oui, Élisée, il faut reconnaître que au-delà de tout ce qu'on dit, l'Afrique a connu le foot à quel moment?
Et quand on se rappelle, 1930, quand avec on se rappelle, la participation de l'Égypte.
Oui, quand on se rappelle, la première fois que l'Afrique est allée en quart, c'était en 90. Regardez le temps que la Coupe du Monde a fait avant que le Cameroun ne brise le mythe du premier tour et se qualifie pour les quarts de finale, pour la toute première fois en 90. Après, le Sénégal a suivi, le Ghana également est passé par là. Il faut prendre patience. Et si on fait participer 10 équipes africaines, ça va changer quoi? Regardez la dernière Coupe du Monde remportée par les Français. Regardez les prestations des Africains pendant cette compétition.
La déception, c'était derrière le Sénégal.
Voilà. Donc, quand on regarde tout ceci, on se dit, à quoi bon envoyer 10 participants quand on sait que 9 vont rentrer
après
le premier tour et que c'est peut-être un seul participant qui va réussir à franchir le cap du premier tour. Donc, il vaut mieux se préparer à fond et moderniser les infrastructures, moderniser le foot en Afrique avant donc d'espérer rivaliser avec les autres nations.
On prend la direction du Cameroun pour dire que l'ancien capitaine de la sélection, Samuel Eto'o, a déposé sa candidature à la présidence de la Fédération de football. Il a assuré qu'il serait le prochain président malgré les tricheries selon ses thèmes s'adressant aux dirigeants actuels de la FECAFOOT. Toutefois, il prévient.
Qu'il sache si l'un de mes délégués, l'un des Camerounais qui a bien voulu me donner son parrainage est éliminé, je viendrai ici avec toute cette foule qui me suit et même celle des autres régions pour les déloger.
Valdo, comme certains grands joueurs, Samuel Eto'o veut mettre à profit sa riche et importante carrière de footballeur de haut niveau, son carnet d'adresse et sa formation en management.
Élisée, avoir un Samuel Eto'o comme président de la Fédération camerounaise de football serait une bonne chose, comme qui dirait la gestion du football au footballeur. Après qu'il ait servi les Camerounais sur terrain avec autant de titres gagnés, son expertise sur les plans administratifs serait donc la meilleure chose qui soit pour le football camerounais. Mais il faudrait également noter que ce n'est pas garanti que parce que on peut dire de lui avoir réussi sur le terrain qu'il en sera des mêmes dans la gestion administrative du football. Quand on sait que les réalités sont loin d'être les mêmes, ce qui est bien, sa candidature semble ne pas connaître le même problème que celui de Didier Drogba en Côte d'Ivoire. Et que si les Camerounais pouvaient bien s'identifier en lui, je pense qu'ensemble, ils pourront relever à un certain seuil le football camerounais et pourquoi pas avoir une incidence sur les prononcés de certains joueurs qui nourrissent l'idée de prendre les commandes des fédérations de leurs pays respectifs.
Albert, comme Drogba, Eto'o aussi veut améliorer la gouvernance au sein de la FECAFOOT, le développement du football à travers les compétitions des clubs et la construction des infrastructures afin de rendre véritablement professionnel le football camerounais.
Vous savez, rien que sa présence sur la ligne de départ change un peu le visage, rien que de cette élection-là, et va changer déjà l'image que les gens pourraient se faire du football camerounais. Parce qu'il y a un nom, parce qu'il y a Samuel Eto'o, parce que c'est un joueur qui a marqué l'histoire du football et sa seule présence suffit à attirer déjà les regards du monde, comme ce fut le cas sur l'élection pour le moment retardée ou avortée selon les positions avec la candidature de Didier Drogba en Côte d'Ivoire. Ouais, c'est bien que Samuel Eto'o décide, pourquoi pas, d'apporter en tant qu'acteur direct sa part pour l'édification du football camerounais. Il a tout gagné et il a tout donné en tant que footballeur. Il veut maintenant gagner, c'est ce qu'on lui souhaite, et éventuellement donner aussi, beaucoup donner en tant que dirigeant. Il a l'ambition, il a le pédigré, il a toute la carte de visite pour être candidat. Donc, seules les élections vont décider, seule déjà la commission va trancher les élections éventuellement décider. Mais pour moi, il reste un candidat crédible pour changer ou pour redonner un nouveau souffle au football camerounais.
L'ex-buteur de 40 ans a assuré que l'équipe sortante lui a proposé le poste de vice-président qu'il a refusé.
Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de proposition de premier vice-président. Je serai le prochain président de la fédération, malgré toutes les tricheries, parce que nous sommes passés, Chirindo, vous le savez, à 115, 111 délégués, à 76.
Ahmedine, ce sont les 76 délégués qu'il viendra convaincre d'ici la date des élections.
Oui, Élisée, l'ancien intéressant camerounais Samuel Eto'o, qui est candidat à la présidence de la FECAFOOT, doit convaincre les 76 délégués avant la date de l'élection, car ce sont eux qui vont voter. Mais comme vous le savez très bien, Élisée, avant la bataille des urnes, il y a toujours une bataille médiatique, et comme Samuel Eto'o n'est pas n'importe qui, il profite de son statut d'ancien footballeur, d'ancien ballon d'or et d'icône du football africain pour faire passer son message. Je pense que c'est de bonne guerre. C'est pourquoi d'ailleurs Samuel Eto'o n'a pas hésité à révéler que son challenger lui a proposé un poste de vice-président qu'il a refusé. Comme je l'ai dit tantôt, c'est de bonne guerre, car il veut prouver à l'opinion nationale et internationale qu'il est déterminé à aller jusqu'au bout, à être le prochain président de la Fédération camerounaise de football Élysée.
Le quadruple ballon d'or africain a déclaré que le président actuel de la Fédération, Seydou Mbombo Djoya, a lamentablement échoué Lawal. Et pourtant, en 2018, il a soutenu. Mais il exprime aujourd'hui sa déception et veut tout refaire. Tout ça semble beau, mais la réalité est tout autre chose.
Oui, Élisée, les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient, a dit quelqu'un sur le continent. Et si aujourd'hui Samuel Eto'o estime que celui qu'il a soutenu il y a deux ans en arrière a échoué, c'est qu'il a forcément des raisons de le dire. Mais il faut dire que le problème du foot camerounais, c'est Eto'o. C'est Joseph Boal. C'est les stars du pays qui font le problème du foot camerounais. Si, entre-temps, Eto'o n'avait pas soutenu l'actuel président, on aurait déjà
réglé. En défaveur d'Antoine Bell.
On aurait peut-être déjà réglé le problème là. Mais aujourd'hui, c'est le retour de la manivelle, comme on dit. Et Eto'o qui a soutenu, contre vents et marées, ce président, et aujourd'hui il estime qu'il a échoué. C'est comme, regardez un peu comme pour Ahmad, entre-temps, c'est ses soutiens qui, les premiers, ont commencé par dénoncer ce qui n'allait pas. Donc c'est peut-être la nature du foot africain. Et Samuel Eto'o, on le connaît, assez sulfureux, assez prompt pour un certain nombre de choses, déclarations agressives et tout le reste. Et s'il doit être manager du foot camerounais, il doit entrer en lui-même, éviter un certain nombre de choses, parce que les propos qu'il tient, dont il est coutumier, c'est pas des propos pour fédérer les énergies. Voilà. C'est des propos qui fondamentalement
qui frustrent,
crispent, et puis vont frustrer les gens autour de lui. Et s'il veut être le président de cette FECAFOOT, il lui faudra tempérer ses ardeurs et voir. C'est pas sur un terrain de foot on est là. Non, on est dans les coulisses même de la gestion humaine. Et Samuel Eto'o a toujours eu ce problème-là dans la gestion des choses, dans la gestion des hommes. Il ne sait pas parler aux gens. Il est un peu il a un ego surdimensionné. Il croit qu'avec toute sa fortune, toute sa riche carrière, qu'il peut, d'un coup de baguette magique, changer les choses. Mais il va se frotter à la réalité. Il comprendra que c'est pas comme mettre un but dans le cas adverse. Ça va être plus dur pour lui que de gérer la FECA Foot.
Voilà qui est clé. Merci Laval.
Lisez, c'est moi.
Sporama, c'est fini. Merci à vous qui l'avez suivi sur nos différents canaux. On se donne rendez-vous pour un autre numéro. Place à l'édition du journal. Au revoir.